Bonjour, bonne année à toutes et tous et bienvenue pour ce tout premier épisode des Carnets d'Igor pour l'année 2024. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre au château de Rambouillet dans les Yvelines où avec le Centre des Monuments Nationaux, j'ai pu découvrir les dernières nouveautés culturelles proposées par ce haut lieu de notre histoire et de notre patrimoine. Des nouveautés que je vous invite à explorer à travers trois podcasts, dont celui d'aujourd'hui qui est ainsi dédié à ma visite de l'appartement de Napoléon Ier, tout juste rénové en 2023 et rouvert au public il y a quelques semaines. Le château de Rambouillet est un monument atypique que je vous invite grandement à explorer si vous ne le connaissez pas. Depuis l'appartement d'assemblée, fleuron de l'art décoratif du XVIIIe siècle du style rocaille, jusqu'au parc labellisé Jardin Remarquable avec ses canaux, ses îles et ses fabriques, c'est un lieu plein d'histoire et de surprises. En effet, là où l'histoire de beaucoup de châteaux se finit avec la Révolution, celle de Rambouillet se poursuit jusqu'à la République, où il tient lieu de résidence présidentielle officielle jusqu'en 2018. Pour ce début d'année 2024 et depuis la fin 2023, le château et son domaine proposent un programme culturel riche de nouveautés, des nouveautés qui devraient plaire aux passionnés d'histoire et de patrimoine que vous êtes. Pour commencer avec les nouveautés du château, et c'est l'objet de ce podcast, sachez que vous pouvez désormais visiter l'appartement de Napoléon Ier, tout juste restauré. On y explore ainsi l'intimité de l'empereur, de sa salle à manger privative, intime et dépouillée d'ornements excessifs, à sa salle de bain au décor haut en couleurs et riche de symboles impériaux qui rappellent son pouvoir, en passant par sa chambre, remeublée dans un style Premier Empire des plus raffinés. Ensuite, et jusqu'au 21 avril 2024, l'exposition Rambouillet 1950 dans l'intimité du président, organisée avec le Mobilier National, propose de mettre en lumière le mobilier commandé pour Rambouillet et pour l'Élysée par le premier président de la 4ème République, Vincent Auriol, alors qu'il cherche à faire de ses résidences présidentielles de véritables vitrines des savoir-faire français. Dans la continuité de cette exposition, mais de manière plus permanente, les appartements des hôtes d'État étrangers ont été rénovés et en partie remeublés, et ils sont eux aussi désormais ouverts au public. Pour la suite du programme, je vous invite à sortir du château et à vous rendre dans le magnifique parc qui l'entoure. Là, à quelques minutes de marche, vous pourrez ainsi découvrir la laiterie de la reine Marie-Antoinette. Alors, afin de ne pas faire trop long, mais aussi pour que vous puissiez choisir d'écouter le ou les sujets qui vous intéressent plus particulièrement, je vous propose trois podcasts autour de ces actualités du château de Rambouillet. Un podcast concernant ma visite de l'appartement de Napoléon Ier situé au premier étage du château. Un podcast lié au rôle du château de Rambouillet sous la République à travers ma visite de l'exposition Rambouillet 1950 dans l'intimité du président et celle des appartements créés pour les hôtes de l'État français. Et enfin, un podcast concernant la magnifique laiterie de la reine Marie-Antoinette. Aujourd'hui, ce premier épisode de Rambolitain est donc consacré à l'appartement de l'empereur Napoléon Ier. Mais avant de vous en dire plus, voici un bref rappel de l'histoire du château de Rambouillet où nous sommes donc aujourd'hui. C'est en 1374 que Jean Bernier, écuyer du roi Charles V, transforme le vieux manoir qu'il a acquis en 1338 au cœur de la forêt de Rambouillet en un premier château fortifié. Une propriété qui passe aux mains de la famille d'Angennes en 1384 et jusqu'en 1699 quand elle est revendue au financier Fleuriot d'Hermenonville. Notez que c'est dans la tour médiévale du château que, le 30 mars 1547, François Ier, qui aimait venir chasser à Rambouillet, va mourir d'une infection. Ensuite, en 1706, Fleuriot d'Hermenonville est contraint de céder le château au fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan, le comte de Toulouse, qui lui-même le transmettra à son fils, le duc de Penthièvre. Si Louis XV y vient régulièrement chasser en invité de son cousin, Louis XVI décide de le racheter en 1783 et d'intégrer le domaine de Rambouillet à celui de la couronne. Délaissé pendant la Révolution, le domaine de Rambouillet est réhabilité par Napoléon Ier, puis utilisé par les rois Louis XVIII et Charles X sous la Restauration. Charles X va même y abdiquer le 2 août 1830, avant que Louis-Philippe ne le mette en location ou que Napoléon III, sous le Second Empire, y organise des séjours pour la cour impériale. Comme vous pouvez l'imaginer, tous ces hôtes vont modifier, agrandir et embellir le château et ses jardins. Dès 1883, la République s'approprie les lieux et y organise des chasses, une tradition qui va perdurer jusqu'en 1995, quand Jacques Chirac va suspendre les chasses d'État. En parallèle, dès 1947 et sous l'impulsion du président Vincent Auriol, le château accueille les hôtes étrangers de l'État français, comme ce sera le cas lors du premier G6, organisé à Rambouillet en 1975 par le président Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, et depuis 2018, à la demande d'Emmanuel Macron, le château de Rambouillet n'est plus résidence d'État et sa gestion est désormais confiée au Centre des Monuments Nationaux, le CMN. Je vous propose maintenant, et sans plus attendre, de remonter le temps jusqu'au début du XIXe siècle pour explorer l'appartement bâti pour Napoléon Ier au premier étage du château. Lorsqu'il devient premier consul en 1799, Napoléon Bonaparte découvre un château de Rambouillet bien dégradé après la Révolution. Un domaine dont il tombe cependant sous le charme, notamment pour sa forêt giboyeuse qu'il fait reboiser et qui séduit l'amateur de chasse qu'il est. Une fois empereur, il est sacré le 2 décembre 1804, celui qu'il faut désormais appeler Napoléon Ier décide de rénover le château et le parc afin d'en faire l'une de ses résidences personnelles. Pour cela, il fait appel à l'architecte Guillaume Trepsa et les travaux commencent en 1805 par la destruction de l'aile gauche de la cour d'honneur du château qui, lui, en ressort malheureusement défiguré. C'est donc l'architecte Auguste Famin qui va reprendre le flambeau et travailler à la réorganisation des pièces du château en essayant, lui, d'éviter de générer les mêmes dommages que son prédécesseur. Alors, on choisit d'abord de bâtir une nouvelle façade sur le corps central du bâtiment côté cour. On va ensuite créer un appartement dans l'aile droite, en lieu et place de l'appartement du XVIIIe siècle, qui fut habité successivement par le comte de Toulouse et la reine Marie-Antoinette. On imagine ainsi une enfilade de 3 pièces, une salle à manger, un bureau-chambre à coucher et une salle de bain. Cette enfilade est alors construite en avant de l'appartement d'apparat, dit appartement d'assemblée, et elle se termine par un passage percé dans la tour médiévale, créée pour lier ces nouveaux espaces aux salons historiques. Rouvertes à la visite le 10 décembre 2023, ces 3 salles privées ont bénéficié d'importantes rénovations sous la supervision de Christophe Battard, architecte en chef des monuments historiques. Elles ont également bénéficié d'un remeublement au plus près des aménagements originaux grâce au soutien du Mobilier National. Alors, de mon point de vue, visiter l'appartement de Napoléon Ier à Rambouillet, c'est plonger réellement dans l'intimité de l'empereur, dans des lieux où on perçoit un peu de l'homme derrière le chef d'État, depuis la pièce la plus publique et sobre, la salle à manger ou antichambre du déjeun, jusqu'à la plus privée et impériale, la salle de bain avec ses riches décors à l'antique. Napoléon aimait le château de Rambouillet. Il va ainsi y passer plus de 60 jours cumulés, et il va même y revenir pour une dernière nuit le 22 juin 1815, juste après l'ultime abdication qu'il vient de signer au palais de l'Élysée le jour même. Mais revenons à la visite de cet appartement impérial et des 3 pièces qui le composent. L'enfilade des espaces est conçue de telle manière que plus on avance, plus les décors et le mobilier deviennent sophistiqués. On est ici dans une maison privée dont l'atmosphère chaleureuse se ressent dès que l'on pénètre dans la salle à manger, dite aussi antichambre du déjeun. Par souci d'économie, Napoléon réemploiera les boiseries ou les cheminées du XVIIIe siècle et il fait venir du mobilier de Trianon ou de son hôtel de la rue de la Victoire à Paris. Mais ne vous y trompez pas, il va aussi commander de riches tapisseries et du mobilier raffiné, digne de son statut d'empereur des Français. Alors, petit détail qui va surprendre certainement le visiteur, le parquet n'est pas brut, mais entièrement peint. Cette habitude n'est pas née sous l'Empire, puisque déjà à Versailles ou dans d'autres châteaux sous l'Ancien Régime on repeignait les parquets. Une question se pose alors, pourquoi repeindre ces parquets, puisqu'aujourd'hui on a plutôt tendance à vouloir les laisser bruts et à voir la beauté du bois. Eh bien, il y a 2 raisons principales. D'une part, cela permettait d'harmoniser des sols qui n'étaient pas toujours homogènes à force d'être réparés, mais cela servait aussi à refléter la lumière dans des pièces qui étaient souvent très sombres. Alors maintenant que vous avez le contexte de la création de cet appartement, je vous invite à me suivre dans les 3 pièces qui le composent. La visite commence par la salle à manger de l'empereur, dite aussi antichambre du déjeun. C'est dans cette pièce sobrement décorée que Napoléon Ier s'entretient avec ses conseillers ou ses invités, en même temps qu'il peut y prendre son petit déjeuner, d'où le nom d'antichambre du déjeun. Un petit déjeuner qu'il avale souvent en vitesse, parce que c'est de notoriété publique, l'empereur n'aime pas s'éterniser à table. Le mobilier, de style Premier Empire, composé de chaises en hêtre blanche et d'un fauteuil signé Jacob Desmalter, ainsi que la fine vaisselle disposée sur la table, issue du service en porcelaine de Sèvres de Napoléon à Rambouillet, laisse imaginer que l'empereur peut entrer à tout moment. La visite se poursuit ensuite par la chambre à coucher. Cette pièce servait en réalité à la fois de bureau et de chambre. C'est finalement logique quand on sait combien Napoléon, en travailleur acharné, dormait peu et n'hésitait pas à alterner les phases de repos et de travail. Le mobilier en acajou s'inscrit dans un style Premier Empire des plus raffinés, un raffinement rehaussé par la tenture bleue qui recouvre les murs, mais aussi le mobilier, du lit aux chaises et autres fauteuils. Parmi les meubles remarquables, on notera la table à écrire où travaillait Napoléon et où est présentée ici une reproduction de la lettre de demande en mariage qu'il écrira à sa future seconde épouse, l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Louise. On remarque aussi le somno, cet ancêtre de la table de nuit inventée à l'époque, du latin somnus qui signifie sommeil, ou encore le fauteuil pommier qui est un meuble imaginé par l'empereur lui-même, l'empereur qui, en frileux qu'il est, commande une assise où il peut s'asseoir confortablement devant la cheminée. D'un côté du fauteuil pommier, il peut s'adosser à l'accoudoir haut qui fait office de dossier, et de l'autre côté, il peut laisser reposer ses jambes sur l'accoudoir bas. Enfin, sur la table à thé, vous remarquerez sûrement la carafe en cristal gravée d'un N, N comme Napoléon bien sûr, un N surmonté d'une couronne impériale. Sortons maintenant de la chambre à coucher pour gagner la salle de bain, qui est certainement la pièce la plus surprenante, mais aussi la plus belle de l'appartement de l'empereur à Rambouillet. Ces décors à l'antique sont sublimes, riches, et ils ont été superbement rénovés selon les indications les plus rigoureusement fidèles aux décors d'origine. Ici, il faut en effet noter que la plupart des éléments décoratifs avaient été conservés, à l'exception de certains, recouverts ou modifiés selon les régimes politiques en place, avec par exemple ici un aigle supprimé sous la Restauration et remplacé par des cornes d'abondance, ou encore là une fleur de lys ajoutée. Lors des rénovations, certains de ces éléments ont cependant été conservés, en témoin de l'histoire. Alors, les 14 panneaux peints qui ornent les murs de cette petite pièce qui au XVIIIe siècle servait de boudoir à Marie-Antoinette, eh bien ces 14 panneaux peints sont signés Pierre-François Godard. Chacun d'entre eux est consacré à un membre de la famille impériale, et au centre de chaque composition, un médaillon peint par Jean Vassereau reprend un lieu qui rappelle la personne en question. Un jardin, un pays, Rome, le Vésuve, ou encore un château, Malmaison, Saint-Cloud, Schönbrunn. Notez que les couples de griffons que l'on peut observer symbolisent qu'il s'agit d'un homme, les couples de cygnes, eux, que la personne évoquée est une femme. Alors, l'ensemble du décor n'est pas exactement celui d'origine et date de 1810-1811. En effet, la première version de 1807 représentait le portrait de chaque membre de la famille impériale dans les médaillons. Mais cela donnait trop de solennité pour une salle de bain qui reste un lieu d'intimité, même si à l'époque, il faut savoir qu'on y recevait volontiers. En effet, autour de la baignoire en cuivre étamé, on trouvait alors du mobilier, principalement des assises. Ici, aujourd'hui, on retrouve une banquette et des chaises gondoles recouvertes de bassins blancs, disposées de manière à accueillir des proches qui, en privilégié, pouvaient s'entretenir avec l'empereur pendant qu'il prenait son bain. Notez qu'alors, les meubles étaient plus nombreux que ce qui est représenté aujourd'hui, mais en visitant la salle de bain, on a une bonne idée de ce que pouvaient être les rendez-vous à la salle de bain. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas ici à observer chaque détail de cette étonnante salle de bain, les rideaux vert empire, les robinets dorés en col de cygne, mais aussi et surtout les peintures de ce décor pompéien très premier empire, avec ses guirlandes, ses fleurs et ses oiseaux, ou encore ses symboles impériaux, de l'abeille au trophée ou à la médaille de la Légion d'honneur. Bref, ne manquez pas de bien regarder chaque détail et surtout de lever les yeux vers le sublime plafond richement décoré lui aussi. Voilà, j'espère que cette exploration de l'appartement de Napoléon Ier au château de Rambouillet vous a plu. N'hésitez pas à le visiter, comme le château et son domaine de manière plus générale. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon site, lescarnetsd'Igor.fr, pour retrouver l'article illustré concernant la visite que j'en ai faite. Vous pourrez aussi y retrouver les visites de mes lieux historiques et culturels favoris, ainsi que diverses anecdotes à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram, Threads, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.